Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Graphite 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur le web. Donc je suis aujourd'hui en studio avec Evan D'Artois, bonjour Evan.
Bonjour.
Géo Saglio.
Bonjour.
Maxence Fass.
Bonjour.
Et Victor Dubois. Maxence est un peu bonjour. Plus loin du micro. Donc aujourd'hui, Evan, Géo, Maxence et Victor vont nous parler d'une réflexion qu'ils ont menée sur la façon dont évoluerait le contrôle étatique après une fermeture du web en Chine. On viendra notamment sur ce concept de fermeture emprunté à Alexandre Monin. Donc les étudiants de WE1 viennent présenter à la radio le résultat d'un semestre de travail qu'ils ont mené à travers des fiches de lecture, la réalisation d'un site web et l'écriture d'un article. On a parlé avec les autres étudiants du groupe que j'ai co-encadré ce semestre. On a parlé soutenabilité, on a parlé convivialité, on a parlé responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, en cours de WE1, eh bien, on a parlé intelligence artificielle et d'autres sujets sont également abordés avec mon collègue Quentin Duchemin. Et donc, Quentin eh bien, viendra également présenter à 16h45 d'autres sujets. Alors, aujourd'hui, donc, comment évoluerait le contrôle étatique après une fermeture du web en Chine? Première partie, on va parler contrôle étatique et crédit social, à travers WeChat notamment, et crédit social en Chine. Et puis donc ensuite, on verra le concept de fermeture et on conclura avec une fiction voilà, qui nous sera proposée par les étudiants. Eh bien, si c'est bon, Evan, pour toi, je te donne la parole pour donc introduire la question du contrôle étatique et de WeChat.
Merci Stéphane. L'ampleur et la portée du contrôle étatique sont aujourd'hui intimement liées à la libre circulation des informations sur le web. L'objectif de cet article sera d'étudier comment évoluerait le contrôle étatique après une fermeture du web en Chine. On expliquera ce concept un peu plus tard. L'exemple de la Chine est souvent cité pour sa forte utilisation du web pour le contrôle de sa population. Cette forme de surveillance est observable à différents niveaux dans plusieurs pays, mais cet article se concentrera spécifiquement sur ce concept exemplaire chinois. Qu'est-ce que le contrôle ? Le contrôle est une procédure mise en œuvre en vue de s'assurer de l'exactitude d'un enregistrement, du bon fonctionnement d'une structure, d'un service ou d'un système. Dans un contexte au sein d'un gouvernement, le contrôle étatique porte sur la vérification d'ordre économique et politique. Par exemple, du point de vue économique, la surveillance des flux financiers vise à prévenir la corruption en mettant en place des mécanismes de vérification des transactions et des audits réguliers. Sur le plan politique, le gouvernement exerce un contrôle sur la manière dont l'information est présentée au public et limite l'accès à des contenus qu'il considère comme allant à l'encontre de sa vision ou de ses politiques. Cela se traduit par la censure en ligne et la restriction d'accès à des informations considérées comme submersives. Nous verrons un exemple de censure dans l'extrait juste après. En Chine, le contrôle étatique joue un rôle central dans la gouvernance, particulièrement dans la gestion de l'information. Des exemples incluent la censure en ligne qui bloque l'accès à des contenus critiques envers le régime, restreint l'accès à des sites étrangers et contrôle les médias sociaux occidentaux. Les médias traditionnels sont également soumis à un strict contrôle du Parti communiste chinois, induisant une autocensure fréquente. En ligne, l'application WeChat est un exemple marquant de surveillance permettant au gouvernement d'accéder aux conversations et données personnelles des utilisateurs, renforçant ainsi son emprise sur les communications et la diffusion de messages officiels. Nous allons maintenant écouter un petit extrait provenant de C'est dans l'air, un reportage du 30 octobre 2021.
C'est aussi un moyen supplémentaire de contrôler l'usage d'Internet, dans un pays où la censure est partout. Le Parti communiste surveille. Impossible de trouver des informations sur des sujets ultra sensibles. Comme Taïwan, le Tibet, le massacre de Tiananmen ou la persécution des Ouïghours. Des milliers de mots-clés sont bloqués. Sur ce site de partage de vidéos, des employés surveillent les internautes chinois. Et voici leur chef, très fier de sa mission.
Nous sommes des employés de nettoyage, sauf que nous ne nettoyons ni des routes ni des maisons, on nettoie le cyberespace.
L'année dernière, la Chine aurait dépensé 5,5 milliards d'euros pour sa censure d'Internet. le prix à payer pour protéger le Parti communiste chinois et éviter toute contestation.
Notre exemple d'incident le plus marquant a été le moment où un gouvernement local voulait construire une usine d'incinération à côté d'une ville en Chine. Sans doute à cause d'une mauvaise communication des autorités, des citoyens ont commencé à manifester et ils se sont rassemblés. On a ciblé la manifestation, on a tracé un cercle GPS de 10 km à la ronde et tous ceux dans ce cercle ne pouvaient plus diffuser de vidéos.
Dans cet extrait, on comprend donc que le gouvernement chinois contrôle l'Internet en Chine, mais aussi la plateforme la plus utilisée en Chine avec près de 1,3 milliard de comptes WeChat. Dans Red Mirror, l'avenir s'écrit en Chine de Simone Pirani, WeChat se définit comme une application mobile de messagerie développée par Tencent Holdings Limited, spécialisée dans les services Internet et mobiles. Fonctionnant comme un réseau fermé, seuls les proches d'un utilisateur peuvent voir ses partages, renforçant ainsi la crédibilité des informations échangées. La notion de proche peut inclure amis, famille ou contacts étroitement liés. Cette approche favorise la confidentialité et l'authenticité des échanges. Concernant les marques, le partage d'informations depuis leur compte public sur WeChat permet une diffusion ciblée, atteignant directement un public intéressé ou lié à la marque, ce qui peut renforcer l'efficacité de la communication. Dans cet extrait, le contrôle étatique par le Parti communiste de la Chine est illustré par la censure de WeChat par des équipes spécialisées qui censurent des mots afin d'éviter que les utilisateurs de WeChat puissent les rechercher. Ils disent qu'ils nettoient le cyberespace. Par ailleurs, un système méticuleux de collecte de données se dissimule en son sein, alimentant le contrôle exercé par l'État sur les activités en ligne des citoyens. Cette collecte minutieuse renforce la capacité du gouvernement à surveiller étroitement les comportements numériques de sa population, notamment à travers le système de crédit social qui va vous être expliqué par Géo.
Merci Evan. Donc, la Chine utilise le Grand Firewall, officiellement connu sous le nom de Projet Bouclier d'Or, qui est un système de censure et de filtrage d'Internet mis en place par le gouvernement chinois pour filtrer et bloquer l'accès à des sites web étrangers et à des contenus jugés indésirables, tels que certains réseaux sociaux, plateformes de médias sociaux occidentaux et des sites d'actualité indépendants. Ce Grand Firewall permettrait donc au gouvernement chinois de forcer les citoyens d'utiliser uniquement les services informatiques qui partagent les données des utilisateurs avec le gouvernement, et donc d'avoir une grande base d'informations sur les citoyens chinois. Ces informations sont utilisées pour créer un score du citoyen qu'on appelle crédit social. Pour rappel, le système de crédit social est un système de notation des entreprises, résidents ou citoyens chinois, mise en place par le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans Internet année zéro, Jonathan Bourguignon définit trois modules composant le système de crédit social. La récupération de données, le traitement, puis la récompense ou le châtiment. On pourrait par exemple voir qu'une personne qui ne peut pas rembourser une dette qu'elle aurait empruntée auprès d'une banque aurait son score qui diminuerait. L'État aurait donc accès à cette information et pourrait donc mettre en marche des punitions comme le refus d'accès à certains services, comme les avions et les trains, dû à un score de crédit social trop faible. Cet exemple de châtiment est une histoire qui a réellement eu lieu à 27 millions de Chinois en 2018. On pourrait aussi voir, par exemple, que les citoyens ayant un bon score social pourraient plus facilement avoir accès à des opportunités de travail et plus facilement avoir des aides de l'État. La Chine a commencé la mise en place de ce système en 2014. Il serait aussi mis en place pour les entreprises pour quantifier, selon les critères du gouvernement, à quel point une entreprise serait digne de confiance ou non. Dans ce cas, on pourrait voir des entreprises qui ont un bon score recevant plus facilement des aides de l'État que celles ayant un mauvais score. La Chine investit aussi une somme considérable d'argent dans la recherche de l'intelligence artificielle, avec une estimation de 150 milliards de yuan en 2020, ce qui fait presque 20 milliards d'euros. Cette recherche est notamment axée dans la reconnaissance et le traitement automatique de médias sous la forme de photos et de vidéos. Jonathan Bourguignon va faire une comparaison entre la situation actuelle en Chine et les descriptions connues des sociétés dystopiques comme celle décrite dans 1984 de George Orwell. Ces deux partagent un contrôle étatique conséquent avec une surveillance quasi permanente des citoyens. Cependant, l'intelligence artificielle vient apporter une nuance entre les deux. Dans 1984, les caméras sont utilisées par des fonctionnaires de l'État, des humains. Or, la Chine utilise et utilisera de plus en plus des IA pour traiter les vidéos et les images prises par des réseaux de caméras de surveillance. La surveillance de l'État prendrait donc une dimension plus permanente et les citoyens chinois sauraient qu'ils peuvent être surveillés à tout moment et dans presque tous les lieux publics. Quand on ajoute cela à une surveillance numérique faite sur les réseaux comme WeChat, cela laisse très peu d'endroits où l'on pourrait être à l'abri des yeux de l'État. Je vais maintenant vous passer un extrait d'un reportage fait par France 24, sorti le 1er mai 2019, sur le sujet du crédit social en Chine.
En utilisant le plus de données possibles, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société.
Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiaowen Wang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dettes. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue.
En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social.
Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins, comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiaowen Wang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux.
Dans cet extrait, la personne parlant au début est Lin Junyue. On peut voir l'impact sur la mentalité des citoyens que ce système pourrait avoir, car la citoyenne modèle va déjà s'appeler une bonne citoyenne, faisant la distinction entre elle et les personnes ayant un score de crédit plus bas. Elle va aussi justifier son respect du code de la route par une peur que son score baisse si elle ne le fait pas. Plus tard dans la vidéo, on va nous expliquer qu'à Nankin, une ville de 8 millions d'habitants, seuls 18 000 sont considérés des citoyens modèles. Ces citoyens modèles vont par exemple payer moitié prix sur les bus de la ville et vont pouvoir emprunter gratuitement des livres à la bibliothèque. Les personnes ayant un score de crédit qui atteint zéro figurent sur une liste noire. Cette liste noire est publique et engendre des désavantages, comme l'interdiction de prendre le train, de demander un prêt et même d'envoyer ses enfants dans des écoles privées. En 2019, 23 millions de citoyens figuraient sur cette liste. Ce système est d'autant plus dangereux par le fait que une simple critique envers le gouvernement ou bien envers le crédit social fait baisser le score de la personne qui l'émet. Victor va maintenant vous parler de la fermeture de web et des modalités qui devraient être mises en place pour que cette fermeture ait lieu.
Merci Géo. Bonjour les auditeurs. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible le concept de fermeture. Il est aisé d'établir un parallèle entre la fermeture du web et le livre « Héritage et fermeture » d'Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. En effet, dans ce livre, les trois auteurs formulent des concepts afin de proposer des nouvelles approches face à la catastrophe écologique. Le web, tout comme le capitalisme, fait partie intégrante de nos vies. Nous consommons sans réellement réfléchir aux problèmes que cela pourrait engendrer. Cela pose un problème majeur. Nous en sommes totalement dépendants. C'est pourquoi une fermeture brutale du jour au lendemain serait impossible. D'après ces trois enseignants-chercheurs de l'ESC Clermont, il y aurait autant de travail lors de la fermeture d'une entité que lors de sa création. Monin va jusqu'à dire « il nous faut développer un art de la fermeture ». De fait, il nous donne des pistes afin de sortir du système économique actuel de manière progressive. Par exemple, la désinnovation est l'une de leurs propositions, correspondant au démantèlement technique de certains projets qui seraient incompatibles avec les limites planétaires. Je vais désormais vous passer un court extrait d'une conférence menée par Alexandre Monin qui exprime la difficulté à fermer une technologie, une infrastructure ou une activité dont nous sommes dépendants.
Le troisième étage de la fusée, c'est le réattachement. Parce qu'on ne peut pas simplement promettre aux gens qu'on va les désattacher d'un certain nombre d'activités qui n'ont plus d'avenir. D'activités, d'infrastructures, de technologies, que sais-je, et les laisser un peu dans une espèce de vide. Personne ne peut subsister sans attachement. Pour subsister, nous sommes finalement des créatures faites, tramées par des attachements multiples. Et donc, si on veut que ces personnes, une fois désattachées d'attachements qui ne sont pas viables, puissent subsister, eh bien, il faut bien leur proposer de se réattacher à autre chose. Et ça fait partie, justement, de la dimension démocratique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement leur dire « vous êtes des actifs échoués, maintenant votre activité n'a pas d'avenir, donc il n'y a plus de place pour vous », c'est de dire qu'est-ce que ces gens-là vont faire, qu'est-ce que ces gens-là qui habitent des territoires vont faire, qu'est-ce que ces territoires vont prendre en charge demain comme activité pour permettre aux gens sur les territoires en question de subsister. Ça, ce sont effectivement des questions qu'il faut se poser.
Donc la fermeture de l'automobile en est le parfait exemple. En effet, la voiture est indispensable pour un grand nombre de Français n'ayant pas accès aux transports en commun. En effet, d'après une étude de Statista de 2023, seulement 14% des Français utilisaient les transports en commun quotidiennement en 2018. Cependant, la voiture a causé 3550 morts en 2022 d'après la sécurité routière. De plus, elle contribue grandement au dérèglement climatique. Les voitures personnelles représentent 60,6% des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe. Voici deux bonnes raisons de fermer l'automobile. Cependant, sans la création d'alternatives telles que des pistes cyclables ou encore des transports en commun plus efficaces et accessibles à tous, il sera impossible pour n'importe quelle instance territoriale ou gouvernementale d'interdire l'utilisation de la voiture. En imaginant que toutes ces infrastructures soient créées, il faudra la mise en place de lois, la destruction et le recyclage des 38,7 millions de voitures en circulation en France, la formation et l'accompagnement des personnels qui travaillent dans l'automobile, etc. Pour le web, la problématique est la même. Le contrôle des citoyens est une raison de fermer le web. Néanmoins, il ne suffit pas d'empêcher l'accès au web aux utilisateurs en fermant les serveurs ou en coupant les câbles d'accès à Internet. Il est nécessaire de trouver des solutions de remplacement concrètes. Le premier problème de taille est une raison d'infrastructure, sociale et écologique. Il va falloir trouver des solutions pour accéder à l'information, pour communiquer. Il faudra également recycler ou réaffecter toutes les infrastructures liées au web, comme les câbles ou encore les data centers. Pour finir, il sera nécessaire de trouver de nouvelles opportunités professionnelles pour les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le domaine du web dans le monde. Le second problème est que Internet n'a pas été créé pour être fermé. En effet, Internet est censé être décentralisé et n'appartient donc à personne en particulier. Désormais, je passe la parole à Maxence pour la fiction.
Merci Victor. Alors, je vais à présent vous présenter une petite fiction d'un futur hypothétique qui envisage une fermeture du web en Chine. En l'an 2037, un scandale concernant une fuite d'informations des bases de données de WeChat est révélé au grand jour. Une équipe de pirates informatiques a réussi à extraire ces informations et à les diffuser sur le web, sans que le ministère du web chinois n'ait ni le temps ni les moyens de les contrer. La population apprend que l'application enregistre l'intégralité des messages, appels, photos et vidéos partagées entre les utilisateurs et les classe selon un algorithme dans les bases de données. C'est la goutte de trop pour le peuple. Des rassemblements d'utilisateurs compétents en informatique se forment et parviennent à prendre le contrôle du web. Tout le monde peut désormais communiquer librement sur le web et une révolte s'instaure peu à peu dans le pays. Les gens descendent dans les rues et manifestent. Ils possèdent enfin un outil leur permettant de s'organiser. Le gouvernement chinois parvient finalement à gérer la situation par une intervention répressive de l'armée. Mais devant les faits accomplis, le gouvernement chinois entreprend une fermeture totale du web, constatant que l'avantage que permet Internet sur le contrôle de leur population pouvait se retourner contre eux. Ainsi, en 2041, naît le programme J-Way, littéralement traduit par « faim ». Mobilisant les informaticiens, techniciens, ingénieurs et ouvriers de tout le pays, le programme vise à détruire tous les supports permettant l'accès et la communication d'informations à distance via Internet. Dans un premier temps, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de contenus et d'applications qui sont fermés. Cela a eu pour conséquence que la plupart des gens ne pouvaient plus acheter d'accès à Internet. Mais les connaisseurs parvenaient tout de même à utiliser les infrastructures d'Internet pour faire transiter leurs informations. Le programme organise alors la prochaine étape, la fermeture des grands serveurs. À ce stade, la communication par Internet est devenue quasiment impossible. Mais les révolutionnaires chinois n'abandonnent pas. Ils créent des serveurs décentralisés en cachette en exploitant les câbles de communication pour continuer l'échange d'informations. La première réaction de l'État fut de pister ses serveurs pour les détruire à la source. Mais devant le grand nombre de serveurs décentralisés créés, le gouvernement se rendit compte que cette solution ne fonctionnerait pas, car il était plus simple et rapide de créer un serveur que de le pister et le détruire. La dernière étape fut alors la destruction de ces 10 câbles. Paradoxalement, la destruction de ce genre d'infrastructure massive s'est avérée beaucoup plus complexe que sa création. De nouvelles problématiques naissent. La population se demande s'il est préférable de couper les câbles et de les laisser sous terre, auquel cas leur dégradation serait nocive pour l'environnement, ou s'il est préférable de les extraire, auquel cas le coût et les travaux à réaliser seraient d'autant plus importants. Mais le gouvernement chinois eut une idée. En recyclant les matériaux rares des infrastructures détruites, ils créèrent une économie du recyclage. En revendant tous ces matériaux aux autres pays qui, eux, sont dans la demande, ils réussirent à compenser le coût du programme J-Way et à éviter de grandes crises économiques. En conséquence, la population des années 40 connut de grandes difficultés à s'adapter, notamment à cause des travaux permanents en ville et aux nombreuses reconversions professionnelles. Mais du point de vue du contrôle étatique, les conditions se sont améliorées pour la population, qui est moins surveillée et dont les informations personnelles sont moins bien captées par l'État, même si la répression persiste, notamment grâce au retour des outils traditionnels de contrôle qui existaient avant le web, comme le Hukuo et le Donghan. Cependant, le long des frontières du pays émergent des réseaux clandestins exploitant Internet. Les individus ont la possibilité de s'y rendre physiquement ou d'y expédier des courriers postaux, lesquels sont ultérieurement acheminés par des passeurs transfrontaliers se rendant dans des pays voisins disposant toujours d'un accès Internet. Cette ingénieuse stratégie permet aujourd'hui à certains citoyens chinois de maintenir des communications illégales avec le reste du monde.
Merci pour cette fiction qui permettait d'illustrer en quelque sorte et de se projeter un peu à la fois sur la question du contrôle étatique et puis de la fermeture du web. Alors on a un certain nombre de questions qui ont été posées par vos collègues du cours. Donc je propose peut-être pour démarrer et rebondir directement sur ce dont tu as parlé, Maxence, et sur ta fiction, Anaïs, en fait, pose une question qui est de savoir si... elle a posé deux questions que je trouve liées, donc je me permets de les mettre ensemble, mais est-ce que, en quelque sorte, le système de crédit social rend l'État chinois totalement dépendant des technos d'intelligence artificielle, nous demande-t-elle. Alors, tu as déjà répondu un petit peu à cette question à la fin, là, mais peut-être qu'on peut revenir un petit peu là-dessus. Et puis, en lien avec cela, est-ce qu'en fermant le web, cela engendrerait une perte totale de contrôle de l'État chinois sur ses citoyens? Et moi, j'ai envie d'élargir un petit peu la question, finalement, si on fermait le web en France, est-ce que l'État français aussi, est-ce qu'on a des pistes là? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent sur ce qu'on perdrait également en termes de contrôle? Et puis, je complète encore la question, vous êtes libre de répondre aux parties que vous voulez. Vous, à titre personnel, de quoi vous vous sentiriez privé? Mais si jamais on fermait le web demain, qu'est-ce qu'on perdrait les uns et les autres? Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur cette question à tiroir. Eh bien, Géo est en train de prendre le micro, donc c'est parti pour toi, tu as la main.
Donc, pour répondre dans un premier temps à qu'est-ce que ça engendrerait sur le fonctionnement de l'État chinois et surtout du contrôle que cet État pourrait continuer à avoir, même sans les technologies d'intelligence artificielle et du réseau, on peut reparler du Hukuo et du Donghan dont nous a parlé Maxence pendant sa fiction, qui sont notamment deux types de systèmes, d'objets, qui étaient mis en place bien avant l'existence du réseau et notamment de l'intelligence artificielle, qui permettaient de garder une trace de l'historique familial de chaque personne habitant en Chine pour définir s'ils auraient un droit d'habiter dans une certaine zone ou un droit d'accéder à certains travail ou certaines ressources. C'était un peu le précurseur, on peut dire, du crédit social, avant l'existence de toute cette collecte de données qui permet maintenant de le faire automatiquement. Pour ce qui est du cas en France, on a un cas assez précis qui était l'État français qui a pu taxer des résidents en France sur la construction de piscines qui n'étaient pas déclarées grâce à l'utilisation de Google Maps. Donc sans ce web, ces actions-là ne seraient pas possibles. Et donc on aura des restrictions qui ne seront plus du tout enforcées de la même manière.
Ok, comme toi, t'as pas de piscine, tu trouves que c'est plutôt une bonne idée, quoi, c'est ça, donc tu trouves que c'était plutôt pratique. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui vient, là, quel est le premier truc, si on fermait le web demain, dans vos vies personnelles, là, quel est le premier truc que vous auriez l'impression de perdre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient directement?
Moi, je pense qu'à titre personnel, je pense directement à la messagerie instantanée qui aujourd'hui est vraiment plus efficace. Donc, on perdrait tout ce système de communication très très rapide et je pense que ce serait le pire pour nous, jeunes étudiants, sans doute.
Pour toi, ok. Une autre piste.
Après, on perdrait sûrement du temps sur la communication, mais je pense qu'on passe aussi beaucoup de temps sur le web. C'est du temps de perdu, je trouve, pour une grande partie de notre temps. Je pense que si on a enlevé le web, on pourrait profiter plus, je sais pas, de faire du sport ou profiter des amis, mais dans le réel.
Ok, donc on perdrait du temps d'un côté, on gagnerait du temps de l'autre. L'équation reste un peu ouverte. Allez, je propose de partir sur une autre série de questions. Donc il y a Mathieu et Clément, j'ai regroupé leurs questions. Mathieu nous demande si vous savez, peut-être à travers les lectures que vous avez faites, là, ce que pensent les personnes chinoises elles-mêmes du crédit social, c'est-à-dire que Clément nous dit effectivement que dans la présentation que vous en avez faite, vous sembliez assez critique de système. Si vous l'avez présenté, peut-être le ton ou les exemples que vous avez utilisés laissaient entendre que vous n'adhériez pas à cette vision de l'organisation sociale. Pourtant, nous dit Clément, eh bien, est-ce que ça ne permet pas aussi d'appliquer la loi, de vérifier qu'il n'y a pas des perturbations de la société? Est-ce qu'il n'y a pas des choses positives? Et donc, comment est-ce que les Chinois, les Chinoises ressentent ce système? Est-ce que l'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'ils sont dans l'indifférence, dans l'ignorance? Voilà les questions que nous posent Mathieu et Clément, sur lesquelles je vous propose de réagir.
Je pense que d'un point de vue occidental, on considère, nous, que oui, le crédit social peut paraître assez négatif parce qu'on vit dans un pays, je ne vais pas définir le terme de libre, mais peut-être beaucoup plus ouvert sur certaines pratiques. Donc je pense que d'un point de vue occidental, on peut avoir plus un avis négatif. Cependant, dans le livre de Simone Pierani, donc, que j'ai parlé tout à l'heure, le lecteur qui lit ce livre atteste un témoignage poignant des habitants des grandes villes en Chine et qui, en fait, était plutôt relativement content de ce contrôle, de cette surveillance qu'ils disent en fait comme rassurante et sécuritaire. Donc je pense que l'opinion peut varier en fonction de la provenance géographique ou de ce qui peut être fait.
Et pour répondre à la question de Clément, qui est plus axée sur est-ce que ce système n'est que négatif, alors bien sûr que non. Enfin, c'est assez compliqué de définir un système comme binaire, donc négatif ou positif. Pour ce qui est de déroger les personnes, de perturber la loi ou de perturber la société, c'est sûr que c'est un outil qui permettrait probablement de, par le biais de la peur, empêcher les gens de briser certaines lois ou de commettre certaines actions qui ne seraient ni désirables pour la société, ni désirables pour les citoyens qui y habitent. Cependant, vous avez fait la distinction dans votre question, et je pense que c'est important de la relever. Le crédit social n'évolue pas que les lois, donc ça veut dire qu'il faut bien faire la distinction entre quelqu'un qui peut avoir un score de crédit social très bas sans avoir cassé aucune loi, pour le dire, et donc il pourrait facilement perdre des points dans d'autres aspects, par exemple financièrement une mauvaise gestion des comptes, ou même juste une dépendance à l'alcool ou aux cigarettes, qui serait quelque chose que pour nous, on ne considérait pas forcément qu'une personne devienne une mauvaise personne due à ça. C'est des mauvaises pratiques pour sa santé, mais est-ce que ça engendre réellement une mauvaise personne? C'est à vous de le décider.
Ok, en revanche, je viens quand même de consulter ton compte sur le crédit social en ligne et tu es tombé très très bas là, donc tu ne pourras plus prendre le train.
Je resterai à Compiègne.
Voilà, ouais, tu vas rester à Compiègne. On a parlé de Black Mirror tout à l'heure en cours. Il y a un autre épisode de Black Mirror sur, j'ai plus le titre en tête, mais quelqu'un le retrouvera bien, sur le crédit social qui était assez intéressant. Allez, peut-être juste une toute dernière question, si vous avez des éléments, mais c'est une question un peu plus d'opinion ou de projection. Voilà, peut-être que vous aurez des éléments ou peut-être pas, sentez-vous libre, mais Martin notamment, j'avais un peu la même question, mais nous demandait comment est-ce que selon vous on pourrait appliquer ou on ne pourrait pas appliquer, donc comment serait perçu, ressenti une telle application du crédit social en France. Je sais pas, est-ce que voilà, vous avez des idées, des endroits où vous dites ah ouais, en fait ce serait cool parce que, ou au contraire non, des idées d'opposition, je sais pas. Maxence, tu nous as lu une fiction, je sais pas si t'es capable de nous en faire en live sans obligation. Quelqu'un a une...
Moi je pense que ce serait plutôt vu de manière négative, parce que en France on est quand même, je pense, très attaché à nos libertés, notamment à mon sens du point de vue de la mobilité.
Par exemple, si on a de la famille dans une autre ville, le fait d'avoir un crédit social le plus faible et de ne pas pouvoir se déplacer, ça peut être très problématique. Puis, voilà.
Ok. Bon, après, si Géo te l'a dit, hein, si tu bois pas et que tu fumes pas, tu peux prendre le train. Donc tout va bien. Sûr. Il suffit d'être sage. Je ne sais pas si vous avez un autre élément à apporter autour de ça.
Peut-être que d'un point de vue sécuritaire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça pourrait faire sentir globalement la société. Je sais qu'en ce moment, en France, il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue. Et peut-être que ça pourrait être positif pour certaines personnes. Mais moi, personnellement, je pense que je ne pourrais pas vivre avec ce système-là.
Ok, bah peut-être rendez-vous dans 5 ou 10 ans quand ça aura été expérimenté pour voir un peu si on avait tort ou raison. Merci à tous les 4 de cette présentation. On va se quitter là-dessus et laisser la place donc au groupe suivant dans une petite demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, qui va nous parler d'intelligence artificielle et d'école. Et ben merci à tous les 4 et bonne fin de journée et bonne orale d'anglais pour Victor qui nous en a parlé pendant toute l'émission. Bye bye, à plus.